Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. C'est vraiment formidable d'entendre cette bonne nouvelle concernant les adoptions à la SPA. Alors, au programme aujourd'hui, vous le savez, dans 2 jours, nous allons reprendre une vie quasiment normale. Ce déconfinement va à nouveau bouleverser nos habitudes de vie prises depuis maintenant 8 semaines. Nos animaux vont eux aussi devoir s'adapter à ce nouveau changement. Alors, comment les habituer justement à ce changement de vie, à l'absence de leur maître pendant la journée? On en parle avec 2 spécialistes. Côté faune sauvage, profitez des derniers jours de grand calme pour ouvrir vos yeux et vos oreilles. Surtout, nous allons vous apprendre à reconnaître les nombreux oiseaux qui vivent dans nos jardins, dans les parcs de nos villes. C'est un spécialiste de la LPO qui nous donnera quelques astuces pour les repérer. Et puis, nous irons dans le Tarn-et-Garonne découvrir la ferme refuge des Trois d'Inde, un refuge pour animaux de ferme qui fête son premier anniversaire. Vous allez voir que sa fondatrice Lisa ne manque pas d'auto-dérision. Nous sommes en direct sur Sud Radio. Vous pouvez appeler le 0826 300 300, le numéro de notre standard. Vous le savez, on vous attend au standard et on répond bien sûr à toutes vos questions.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux et vous.
Bienvenue dans vos animaux. Ce matin, nous allons parler du déconfinement qui nous concerne quasiment tous. Nous allons essayer de retrouver une vie quasi normale, retourner au travail pour ceux qui en ont la possibilité. Et tout cela va avoir de nombreux changements aussi sur nos animaux. Notre présence à leur côté était d'ailleurs plutôt bien vécue pour beaucoup d'entre eux. Mais voilà, dans 2 jours, eh bien, tout cela risque d'être terminé. Alors, pour nous éclairer, pour nous expliquer comment les habituer à ce déconfinement, à notre absence au cours de la journée, 2 spécialistes pour nous éclairer. Chloé Fesch, bonjour Chloé. Bonjour Chloé.
Oui, bonjour.
Chloé, vous êtes éducatrice canine, vous allez nous conseiller pour la gestion de nos toutous. Et nous sommes aussi avec Sandy Descorcia. Bonjour Sandy.
Tacha.
Sandy, vous êtes éducatrice. À vous reviendra le volet de nos petits chats parce que eux aussi se sont fortement habitués à notre présence. Alors, d'abord, une question qui s'adresse à toutes les deux. On va commencer peut-être avec vous, Chloé, et Sandy prendra le relais. Comment nos animaux ont-ils vécu ces 2 semaines? Est-ce que finalement, pour eux, c'est plutôt du bien vécu?
Oui, il est probable, en tout cas du point de vue canin pour nos chiens, que ces semaines passées avec eux étaient positives. Après, il fallait faire attention à respecter quand même leur temps de repos et ne pas les surstimuler. Mais bon, voilà, pour la plupart, ils ont pu avoir plus d'attention, on a plus répondu à leurs besoins, etc. Donc voilà, je pense que la plupart de nos chiens ont bien vécu cette période, en effet.
Et en ce qui concerne nos chats, Sandy?
C'est un petit peu la même chose. C'est vrai que c'est toujours partagé, mais de notre côté, au niveau félin, ils ont plutôt bien vécu, mais je pense parce qu'ils ont respecté le fait, comme dit Chloé, de ne pas les surstimuler non plus, parce que le retour sinon risque d'être un peu un problème. Et chez certains chats, ça va l'être. Il y a certains chats qui risquent de pas comprendre qu'on soit plus à la maison avec eux toute la journée.
Mmh. Alors j'aimerais, parce que c'est important justement dans la gestion du déconfinement, comprendre l'importance des habitudes, des rituels dans chacune de ces 2 espèces de nos animaux de compagnie. Commençons avec les chats, Sandy.
Alors effectivement, les chats sont des animaux très routiniers. Pour la plupart, ils aiment bien savoir un petit peu de quoi la journée est faite. Et il y a certains chats chez qui c'est perturbant d'avoir une routine différente. Donc effectivement, nous, on a tendance à conseiller d'avoir une routine la plus classique tous les jours, toujours un petit peu la même, sans être monotone non plus, très important. Mais en tout cas, voilà, d'avoir des choses habituelles. Comme vous savez, quand vous rentrez du travail, vous trouvez votre chat un petit peu tous les jours au même endroit, sur son arbre à chat ou sur le canapé qui vous attend. Ben, c'est parce qu'il a l'habitude, tout simplement.
Ça veut dire que pour préparer ce déconfinement qui va arriver là dans quelques jours, est-ce qu'il faut mettre en place de nouveaux rituels pour qu'il n'y ait pas une rupture totalement brutale, qu'on passe du jour au lendemain à un maître très présent, à un maître très absent?
On peut tout à fait préparer le déconfinement avec son chat en recommençant un petit peu à même simplement, ça peut paraître tout bête, hein, mais se préparer, se s'habiller, se mettre en condition de travail, prendre
ses clés. Ah, vous voulez dire qu'il faut mettre son costume trois pièces?
Mais oui, mais oui.
Pour le chat, pour l'habituer, se maquiller, oui, refaire son brushing.
Mais parce qu'en fait, le petit chat, lui, il est attentif à ce genre de détails. En fait, les animaux font attention à ça. Ils nous connaissent par cœur. Vous savez, quand on se lève le matin, ils sont avant nous à la salle de bain parce qu'ils savent qu'on va aller en premier à la salle
c'est
de
vrai.
Bain. Et si on change cette habitude et qu'on les perturbe, ils sont là-bas. Pourquoi tu vas pas à la salle de bain? Donc, on peut les réhabituer à reprendre la routine de travail sans forcément sortir, mais déjà commencer à préparer ça. Oui, tout à fait.
En ce qui concerne les chiens, Chloé, les habitudes, les rituels, est-ce aussi important que pour les chats?
Alors oui, c'est très important parce que tout ce qui va être routine, ça va les rassurer énormément. Donc chaque chien va avoir sa sensibilité, il y en a que ça va perturber plus ou moins. Ça dépend de votre chien, c'est du cas par cas. Mais d'une façon très générale, plus on a un rythme de vie et un rythme de journée qui est relativement le même, plus on va avoir un chien qui sera rassuré par ça. Parce que le chien, on peut pas lui expliquer avec des mots, bon, bah là, je retourne travailler, ou là, aujourd'hui, ça va changer. Donc ça, il en est pas capable. Par contre, le fait qu'il y ait chaque chose à peu près au même moment dans la journée, bah, ça lui permet d'anticiper, d'être moins un peu dans l'hyper-vigilance de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que mon maître va partir, etc. Donc ça les rassure beaucoup. Et en effet, le grand risque du déconfinement, c'est qu'on casse d'un coup les habitudes qu'on a prises pendant quand même quelques semaines, donc ils sont finalement bien installés. Et ça peut être un vrai problème pour certains chiens qui vont finalement mal vivre ce changement.
Donc ça
brutal.
Veut dire que là encore il faut instaurer de nouveaux rituels hein, ou reprendre
Alors,
nos habitudes
jours,
anciennes progressivement pour pas que...
En deux jours, ça va être compliqué de permettre au chien d'avoir ses nouvelles habitudes. Ça va se mettre en place petit à petit. Mais peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est notamment lors de la balade. Si on avait l'habitude de balader son chien à 10h et que 10h, c'est l'heure où on sera au travail, peut-être profiter du week-end pour décaler cette heure de balade à une heure où, en semaine, quand on travaille, ce sera possible. Parce que ça, la balade, on sait que c'est un moment que le chien attend particulièrement et il s'habitue vite à l'avoir à ce moment-là, étant donné que c'est une source de plaisir pour lui.
Qu'est-ce que vous conseillez, Chloé, aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont un chien, qui viennent de passer 2 mois de vie vraiment intense avec leur animal? Quels sont les gestes à mettre en œuvre dès maintenant pour faire en sorte qu'il n'y ait pas mal vécu finalement à ce déconfinement, voire même de période de tristesse ou de forme un peu de dépression chez le chien?
Alors, ce qui peut souvent arriver, c'est aussi de l'anxiété, un stress quand on va partir, c'est-à-dire que le chien comprend plus pourquoi d'un coup on n'est plus avec lui. Et souvent, ce que je recommande, c'est de ne pas tout le temps répondre aux demandes d'attention de son chien. Donc, quand on est à la maison, que son chien vient nous demander un câlin, une attention, prenez l'habitude de par moment ne pas y répondre, donc de l'ignorer. Hein, on ne va pas le gronder non plus, juste qu'on l'ignore, on n'y répond pas. Et ça va permettre au chien d'être un peu plus autonome, de se dire, bon, là, j'ai besoin d'attention, mon maître est là, mais je ne l'ai pas, j'ai pas son attention, donc je vais me débrouiller autrement. Et c'est plus facile de faire comme ça que de tout le temps donner l'attention à son chien quand on est avec lui, et puis d'un coup, quand on n'est pas là, pouf, il n'y a plus rien, et ça, c'est vraiment perturbant pour les chiens les plus sensibles à ça. Donc ça, c'est une habitude qu'on peut prendre quotidiennement, notamment quand on a un chiot aussi, c'est un conseil qu'on recommande souvent pour habituer ça.
On va donner la parole à Lily qui a composé le 0826 300 300, le numéro du standard de Sud Radio. Bonjour Lily.
Bonjour.
Bonjour Lily. Vous, Lily, je crois que vous avez un chat, des chats peut-être même.
Un seul qui a 3 ans.
Un seul chat. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé cette période de confinement avec votre minou?
Eh ben, il était adorable. Lui, ça lui a pas tellement changé sa vie parce que de toute façon, il pouvait pas sortir et donc du coup, je l'ai gardé avec moi. Il m'avait juste un petit peu trop sur le poil, je pense, à son goût.
Mais pourquoi il vous a manifesté parfois son désaccord?
Ben en fait, m'ennuyant puisque je suis toute seule chez moi, j'ai instauré un petit jeu puisque j'ai Disney Plus maintenant et j'ai regardé Pokémon Pass. Et vous savez, cette période où il y a un petit carlin et où John Smith lui froisse la tête en lui disant bonjour, Percy, au revoir, Percy. Et bien, chaque fois que je rentre dans une pièce, je m'amuse à lui faire ça. Et je crois qu'il en a marre de moi.
Voilà. Oh, mais là, vous êtes taquine hein, quand même, Lily. Hein.
Mais il faut bien que je m'occupe, c'est ma seule distraction.
Voilà. Vous allez reprendre le travail, Lily, à partir de la semaine prochaine ?
Ouais, je travaille dans un musée qui est fermé depuis le mois d'août dernier pour travaux, mais du coup, le travail sur les collections va reprendre de façon à ce que je puisse tripoter les collections, parce que de les travailler dessus à distance, c'est un peu galère. Et retrouver l'ergonomie de mon poste de travail, ça pourrait être super pour mes cervicales. Donc ouais, je reprends le travail à partir de lundi, ouais.
Donc là, gros changement pour votre chat. Il va enfin être tranquille.
Il va avoir la paix. Je pense qu'il va être heureux de refaire ses siestes de, de toute une journée d'affilée. Ouais, non, il va être content.
On va demander conseil à Sandy Descorcia, notre éducatrice. Bon, Sandy, on voit que chez Lily, ça se passe bien, à part les petites taquineries qu'elle fait à son minou. Mais quel conseil pouvez-vous donner justement à tous ceux qui, comme Lily, va reprendre le travail à partir de la semaine prochaine ?
Mais effectivement, si ça se passe bien et que le chat est plutôt satisfait de récupérer son ancienne routine, pas de souci, on peut laisser tel quel et bien sûr, on fait toujours ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Si par contre, vous avez l'impression que votre chat s'est habitué à votre présence, n'hésitez pas à mettre en place des objets de stimulation quand on est en absence. Par exemple, des gamelles ludiques, c'est des gamelles pour se nourrir où le chat doit jouer et travailler avec sa patte pour aller chercher sa nourriture. Ça peut être des très très bonnes choses pour l'occuper même quand vous n'êtes pas là. Des petites stations de recherche de nourriture, même pour chiens, hein, c'est ce qu'on appelle des tapis de fouille, on peut l'utiliser pour chats. Des hamacs aux fenêtres, par exemple, pour faire un nouveau coin dodo et observer ce qui se passe dehors. Donc voilà, plein de petites choses pour l'occuper si vraiment il a mieux vécu le confinement et la présence et le côté stimulation toute la journée.
Tout ça se trouve en animalerie, Sandy ?
Absolument.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même aussi ?
Oui, 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 on peut soit fabriquer soi-même, c'est ce qu'on appelle les fameux « do it yourself » ou « fais-le toi-même » en français. On peut fabriquer des gamelles ludiques sans problème, avec des bouteilles, avec des rouleaux de sopalin vide, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont sur Internet. Et dans les animaleries, on peut trouver des gamelles ludiques, on peut trouver des hamacs pour chats, on peut trouver des arbres à chats, etc., etc.
On a maintenant... Merci beaucoup Lily pour votre appel et puis ben, bon courage hein, pour la reprise du travail. On va maintenant donner la parole à Régine. Bonjour Régine.
Bonjour.
Comment allez-vous Régine ?
Très bien, très bien. Alors je vais vous dire, je me sens un petit peu en porte-à-faux parce qu'en fait je n'ai pas été personnellement concernée par le confinement dans le domaine des animaux parce que je n'ai plus de chiens, de chats, mais par contre j'ai pu constater depuis chez moi à la fois la difficulté que représentait le confinement parce que j'ai plein de mes voisins je voyais qui profitaient de l'heure à laquelle ils étaient autorisés pour aller au bord de la Dordogne puisque c'est là que j'habite, enfin bref et voir et je me posais justement la question à laquelle finalement vous venez de répondre, je me disais cette grande entre guillemets liberté pour les animaux de se promener, d'avoir leur maître pour eux, ça va être compliqué au retour. Et je pense que vous avez répondu à ma question en disant qu'effectivement, ça va pas être facile pour eux, dans la mesure où il va falloir qu'ils aient d'autres repères et qu'ils perdent leur, on va dire, mauvaises habitudes. C'est bien ça, en fait.
Ou leurs bonnes habitudes. Ou leurs bonnes habitudes. En tout cas, on change leurs habitudes, ça, c'est sûr. Ça.
C'est-à-dire que pour les maîtres, c'est parfait parce que ils les ont pour eux, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai eu aussi pas mal, mais en même temps...
Vous aviez des chiens, des chats, Régine? Vous aviez quoi comme animaux?
C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas toujours eu des chiens, mais d'une façon fortuite, j'étais mariée, je suis veuve depuis pas mal de temps, 3 enfants, un commerce qui était extrêmement prenant, et surtout... un appartement, et j'avais pas l'ombre d'un espace vert, quoi. Et le jour des 7 ans de mon fils aîné, on avait un ami qui avait un élevage de pointer, qui est arrivé la bouche en cœur avec un chien en disant c'est à ton fils que je l'offre. J'ai dit tu te rends compte? Donc, si vous voulez,
pointer en appartement, c'est compliqué.
C'était compliqué, hein. Et il m'a répondu, j'ai dit mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? Il m'a dit, à partir du moment où tu as un bon panier en osier et beaucoup d'affection, ça va le faire. Et ça l'a d'autant plus fait que, si vous voulez, ça a duré toute notre vie. On a pérennisé la succession de Lady, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait, parce qu'on avait un ami médecin qui avait un braque de VMA et un ami vétérinaire, et on a assuré une descendance, ils étaient magnifiques. Seulement, on avait 30 ans. Et donc, on se débrouillait, on n'avait pas d'espace pour, pas un chien, mais deux chiens. Donc, si vous voulez, je comprends ce que c'est que d'être confiné et tout ce qui s'ensuit. Mais en même temps, et les habitudes et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai qu'on peut toujours se débrouiller. Mais avec l'âge, avec le temps, c'est beaucoup plus difficile. Et je me disais, effectivement, on les adore, et ils prennent leurs habitudes et les changer comme ça, ça ne doit pas être évident. Mais en fait, je pense que vous avez répondu à ma question précédemment, c'est-à-dire que il faut.
Eh bien, tant mieux, Régine. On est là pour ça. Régine, merci infiniment. Merci pour votre appel. On vous souhaite bien sûr de passer un excellent week-end et surtout prenez bien soin de vous, Régine, car ce n'est pas parce que nous allons déconfiner beaucoup de régions françaises qu'il ne faut plus faire attention. Hein, on ne le répétera jamais assez. Les gestes barrières doivent s'appliquer. Prenez bien sûr tout ce soin de vous. Moi, j'aimerais qu'avec nos deux spécialistes, Chloé et Sandy, on récapitule vraiment. D'abord pour les chiens, on va commencer avec Chloé. Les choses intéressantes à mettre en place pour que notre chien vive bien ce retour à notre normalité qui est la vie active, pour leur éviter aussi peut-être un risque d'ennui, de dépression, pour respecter leurs besoins physiologiques. Si on a trois choses à retenir, Chloé, ce serait quoi ?
Alors, la première chose, c'est ne plus répondre aux besoins de son chien. Ça veut dire que il faut, malgré le fait qu'on retourne au travail, etc., continuer de promener son chien, de le sortir, même si on a un jardin. Ça va vraiment être quelque chose qui est vraiment recommandé, on va dire limite obligatoire tout le temps. Donc on continue de s'occuper de son chien, de le promener, malgré le fait qu'on retourne travailler dès lundi. Ça, c'est vraiment important. Après, ce qu'on peut faire aussi au moment de notre départ, c'est de le positiver. Alors, le positiver, c'est qu'on va tout simplement donner au chien quelque chose qu'il va particulièrement aimer. Donc, il y a tout ce qui va être jeu d'occupation. Sandy en a parlé un peu tout à l'heure avec les chats et on va retrouver les mêmes choses chez les chiens, donc à taille de chien, on va dire. Mais les tapis de fouille, des activités où le chien va mastiquer, des jouets fourrés, tout ça, c'est des choses qui seront très intéressantes à donner au moment du départ parce que ça va nous permettre de positiver le fait qu'on s'en aille.
Donc ça, on ne les laisse pas à disposition tout le temps, c'est vraiment quand on part. C'est la récompense du départ. Important.
Voilà. Et pourquoi on les laisse pas à disposition? Parce que si le chien y a toujours accès, c'est forcément moins intéressant. C'est comme, si je donne à un enfant un jouet qu'il adore, s'il l'a tout le temps, au bout d'un moment, il se désintéresse un peu de ce jouet. D'ailleurs, souvent, quand il retrouve un jouet, il se dit « Wow, trop bien !» Donc, c'est le même système avec le chien. Donc, quand on rentre, on enlève ce fameux jouet d'occupation et on le redonnera au départ suivant. Et puis, le dernier conseil que j'ai donné tout à l'heure, c'est de faire attention de bien gérer les contacts, donc de ne pas répondre tout le temps aux demandes d'attention de son chien, de le laisser un peu se débrouiller avec ça, quitte à le détourner avec un jouet d'occupation éventuellement. Et ça, ça va vraiment aider. Et dans tous les cas, si le déconfinement montre que votre chien le vit pas bien, qu'il stresse, qu'il se frustre, bref, si ça va pas, vous faites appel à un éducateur canin et il y aura un suivi qui est fait pour ce chien. Ça faut pas hésiter non plus. Mais dans tous les cas.
Justement, Chloé, vous proposez pas mal de choses en ligne sur vos réseaux sociaux. Dites-nous où on peut trouver vos conseils pratiques parce que c'est bien, vous faites beaucoup de choses en vidéo. Voilà, les gens peuvent voir un peu comment faire avec leur chien.
Ouais, alors il suffit tout simplement de taper Canidélite. On est présent sur YouTube, on a un site web, Facebook, Instagram. Sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, ce matin, il y a une vidéo sur la cohabitation chien-chat qui est sortie avec Sandy, qui est donc sortie ce matin à 10h. Donc, c'est un sujet qui est assez en lien. Et on a lancé une plateforme de formation en ligne. Donc, ce sont des formations pour les maîtres, et l'objectif, c'est vraiment d'aider les maîtres à avoir des solutions avec leurs chiens. Donc, tout est sur nos réseaux, Canidélite, et on retrouve l'ensemble de ces éléments.
Voilà, Canidélite. Merci infiniment, Chloé. Sandy, on va faire la même chose pour nos amis les chats. Trois conseils très pratiques à retenir pour vivre au mieux ce déconfinement avec nos matous.
Eh bien là, pour le coup, nous, avec nos chats, on reprend une routine le plus vite possible. On essaye de revenir un petit peu comme d'habitude, comme à la normale, au travail, pour que ça les rassure. On met en place en deuxième des objets d'occupation et de stimulation ou des enrichissements, c'est-à-dire des hauteurs, etc., pour les occuper pendant qu'on n'est pas là. Et puis en dernier lieu, moi je dirais tout simplement, on change pas vraiment ses habitudes. Si on sent que son chat va bien, on continue à jouer avec lui, on continue à le câliner. Et comme disait Chloé, s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous nous demandez conseil en tant que professionnel, on est là pour vous aider. Mais c'est vrai qu'au niveau du chat, ça se passe plutôt bien cette période, donc je suis sûre que ça ira aussi pour la suite, rassurez-vous. Vous tout le monde.
Et donc les bons conseils de Sandy et de l'équipe d'Éduchateur, on les trouve où Sandy?
Alors on a le site éduchateur.fr tout simplement, donc pareil, beaucoup de conseils en ligne gratuits, beaucoup de vidéos, la page Facebook également, donc voilà, que les gens n'hésitent vraiment pas, ça nous fera plaisir de les aider. Et effectivement, comme le disait Chloé, voilà, on a même fait des petites choses, cohabitation chien et chat, puisque parfois les deux espèces vivent ensemble et donc doivent cohabiter pendant qu'on sera pas là au travail.
Merci à vous deux, quelle équipe de choc, merci. Et donc on vous retrouve avec grand plaisir sur vos réseaux sociaux respectifs puisque vous êtes très actives l'une et l'autre sur les réseaux sociaux, Canidélite d'un côté et Éduchateur de l'autre, pour conseiller tous les maîtres des chiens et des chats. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes, notamment pour écouter et observer les oiseaux du jardin.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous du samedi matin, vos animaux. Merci d'être là pour écouter Sud Radio. Alors, dans notre séquence à l'état sauvage, nous allons apprendre à reconnaître les oiseaux de nos jardins avec le directeur du pôle protection de la nature de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. On vous fera écouter des sons pour les reconnaître et on vous dira aussi comment les observer au mieux. Et puis, nous découvrirons ensemble un refuge formidable. C'est une ferme refuge qui s'appelle les Trois d'Inde. Cette ferme refuge a été créée par trois passionnés. C'est un véritable petit paradis pour les animaux de la ferme qui est situé dans le Tarn-et-Garonne. Mais pour l'heure, c'est notre question veto de la semaine.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Et c'est Monica qui est en ligne pour me poser sa question. Bonjour Monica.
Bonjour Natacha.
Monica, vous allez bien?
Oui, je vais très bien, je vous remercie.
Bon, vous avez un petit caniche, je crois qu'il s'appelle Cappuccino. Oui. Que lui arrive-t-il?
Cappuccino. Alors oui, mon petit caniche Cappuccino qui a 9 ans. Par moments, il tousse et racle sa gorge comme si quelque chose le gênait. Il ne vomit pas. Mais bon, j'en ai parlé au vétérinaire. Elle m'a dit que ce pourrait être un affaissement de la trachée. Je voudrais savoir s'il aurait quelque chose à lui donner, un doux sirop, enfin un sirop ou quelque chose pour un peu l'empêcher ce raclement. Et surtout, vous voyez, en plus de ça, bon, c'est vrai qu'il aboie beaucoup. Ah. Il aboie pas mal. Je crois que je suis sourde parce qu'il aboie très fort. Et après avoir beaucoup aboyé, il racle sa gorge et... Et le soir également, et je sens que bon, ça m'ennuie parce que j'ai toujours peur qu'il étouffe, qu'il se sente mal. Enfin,
est-ce que votre vétérinaire lui a déjà prescrit quelque chose, des médicaments ou pas du tout?
Non, rien du tout. D'accord. Non, j'en ai parlé la dernière fois une fois par an, je l'emmène pour, une consultation générale, et j'en ai parlé. Il m'a dit que, enfin. Qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, je ne sais pas, moi, je me renseigne. Voilà.
Et ça fait combien de temps qu'il fait ça?
Oh bien, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait un petit moment et donc, ça fait bien... ça fait au moins 6 mois qu'il a ce souci. Et alors, quand tu fais ça le soir, la nuit... Donc, alors moi, ce que je fais, je lui masse la gorge doucement. Oui. Je lui masse sa gorge et je sens que ça lui fait du bien. Il s'arrête un peu, mais il recommence après parce que bon, je sens que quelque chose le gêne.
Alors, écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, Monica, c'est plusieurs choses. Oui. D'abord, les cas comme ça, de tout à répétition, chez des chiens de petite taille comme le caniche sont effectivement très souvent liés à un problème de trachée qu'on appelle le collapsus trachéal. Il se trouve que dans les petites races, les cartilages de la trachée ne sont pas suffisamment durs et solides pour maintenir la trachée vraiment ouverte comme un tube, hein, comme une sorte de tuyau qui permet le passage normal de l'air. Donc c'est vrai que ce collapsus trachéal est une source très fréquente de toux chez ces petits chiens. Vous pouvez dans ce cas-là, si ce collapsus est avéré, et ça seul le vétérinaire peut en attester, il peut faire des radios, si les radios ne suffisaient pas, il peut faire éventuellement une endoscopie, mais enfin ça c'est vraiment en cas extrême, on peut donner des médicaments qui effectivement permettent d'atténuer la toux. Mais le problème de ces médicaments, c'est qu'ils ne règlent pas le problème. Le problème majeur, c'est ce rétrécissement, cet effondrement de la trachée. Donc déjà, il y a un conseil très pratique, peut-être que vous le mettez déjà en œuvre, c'est de remplacer le collier de votre chien lorsque vous le promenez par un harnais. Parce que le collier a un effet mécanique sur la trachée, ça vient écraser encore plus la trachée. Donc c'est très mauvais les colliers chez les petits chiens, il faut vraiment privilégier les harnais. Donc, vous pouvez demander à votre vétérinaire, s'il a fait un diagnostic très précis de ce collapsus latéral, un médicament, il y a des sirops antitoussifs, parfois on peut recourir à des corticoïdes, mais c'est vraiment le vétérinaire qui doit décider parce que c'est au cas par cas. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il est vraiment important de faire un diagnostic très précis. Parce que la manifestation de toux, chez un chien notamment, peut aussi être le reflet d'un problème encore plus grave que le collapsus trachéal, qui est un problème cardiaque. Donc là encore, une auscultation chez le vétérinaire est très importante. Est-ce que vous avez remarqué que Cappuccino a tendance à se fatiguer plus vite? Est-ce qu'il s'essouffle? Est-ce que vraiment vous le sentez moins dynamique, moins en forme ou pas du tout?
Il est assez dynamique quand même pour un petit chien qui va sur ses 9 ans. Il court beaucoup dans le jardin. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il rentre plus avant. Il aimait bien rester dans le jardin toute la journée. Mais surtout qu'il fait beau en ce moment. Mais là, en ce moment, il veut rentrer dans la maison et puis il se repose.
D'accord.
Donc, alors, peut-être qu'il est fatigué. Je me dis, il vaut mieux qu'il soit à l'intérieur qu'à l'extérieur parce qu'il a tendance à aller aboyer sur les gens qui passent.
Donc, si on est concret et pragmatique, Monica, première chose à faire, à mon sens, c'est de reprendre rendez-vous chez votre vétérinaire, de faire un bilan complet de Cappuccino. Ça va pas être un bilan onéreux. On n'a pas besoin de faire des choses incroyables pour faire ce bilan, mais c'est vraiment une consultation du vétérinaire qui va ausculter son cœur, qui va ausculter ses poumons, qui éventuellement fera une radio. Et de là, on pourra savoir quelle est la cause de cette toux. Et le traitement dépend forcément de la cause. Mais si c'est un collapsus trachéal, comme votre vétérinaire semble vous l'avoir dit, eh bien, on peut améliorer un petit peu son confort avec des médicaments et remplacer le collier par un harnais. Voilà, Monica.
Ok. Eh bien, je vous remercie, Natacha. Merci beaucoup.
Merci à vous, Monica. Passez un excellent week-end. Il fait beau chez vous?
Oh oui, il a fait très, très beau ces derniers jours.
Vous habitez dans quelle région, Monica?
Dans le sud-ouest, près de 20 km d'Albi.
Bon, donc profitez de ce beau temps printanier. On vous embrasse, Monica. À bientôt sur l'antenne de Sud Radio.
À bientôt.
Allez,
Natacha.
Tout de suite, notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et aujourd'hui, on va essayer de reconnaître les oiseaux de nos jardins. Alors, quand je dis nos jardins, ça peut être votre propre jardin, mais ce sont aussi les oiseaux que l'on peut croiser dans les parcs, en ville. Voilà, il y en a partout. Moi, personnellement, j'ai l'impression de ne jamais avoir autant entendu les oiseaux. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et pour essayer de nous aider dans la reconnaissance des oiseaux, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Zucca. Bonjour, Maxime.
Bonjour, Natacha.
Maxime, vous êtes un grand spécialiste des oiseaux, vous êtes le directeur du pôle protection de la nature de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Maxime, est-ce que vous pensez qu'au cours de ces 8 dernières semaines, il y a plus d'oiseaux présents ou est-ce que simplement on les entend plus? Et est-ce que ce confinement a eu un impact positif sur eux?
Alors, je pense qu'on les entend plus, effectivement. Le moindre bruit urbain et le fait aussi qu'on soit tous invités à rester chez nous fait qu'on porte une attention différente à notre environnement et qu'on entend plus les oiseaux au moment où d'habitude on se retrouve dans les transports en commun ou occupés à faire plein de choses chez nous le matin. Et là, on ouvre les fenêtres, on a du temps et on entend. Mais finalement, les oiseaux étaient déjà là avant et pas beaucoup plus maintenant.
Donc c'est une bonne nouvelle parce que franchement, on sent que cette nature est riche. Là, le printemps, c'est vraiment un moment de forte activité. Ils sont tous extrêmement occupés, tous ces petits oiseaux dans nos jardins. Moi, c'est hier, je crois, j'ai aperçu une petite mésange bleue.
Oui, effectivement, les oiseaux chantent au printemps, donc on les entend beaucoup. Et le mois de mars, lorsqu'a commencé le confinement, c'était presque le moment le plus actif. Et là, encore maintenant, même si les chants commencent à s'amenuiser, parce que les oiseaux nichent maintenant, et lorsqu'ils couvent, lorsqu'ils nourrissent leurs jeunes, ils chantent moins. Et d'ailleurs, les mésanges bleues, celles dont vous parlez, en général, elles sont en train de nourrir leurs jeunes. Certains jeunes ont déjà quitté leur nid. Peut-être que vous l'avez remarqué, ce sont des oiseaux qui nichent dans les trous des murs, dans les trous des arbres, parfois dans les nichoirs, si vous en mettez. Mais je voulais revenir sur votre question toute première tout de même sur est-ce que le confinement a eu un effet positif? Parce que quand même, probablement, même si nous n'avons pas pu, nous, les ornithologues, nous rendre dans les parcs urbains, par exemple, pour voir s'il y avait plus d'oiseaux, ce qui est sûr, c'est que les oiseaux ont eu beaucoup plus d'espace pour nicher et aussi les oiseaux ont eu à subir beaucoup moins de collisions avec les voitures, notamment. Et ça, c'est un vrai sujet. Et les chouettes participent particulièrement, pas que les oiseaux, d'ailleurs. Ça vaut aussi pour les grenouilles, ça vaut pour les petits mammifères comme les fouines, comme les putois. Donc là, on pense qu'on a beaucoup d'oiseaux qui ont échappé à la mort habituelle de cette période de l'année.
Donc finalement, ce confinement qui n'a pas toujours été très plaisant pour nous, êtres humains, a eu beaucoup d'effets positifs sur la nature. Alors je faisais ma maline avec la mésange bleue. En réalité, c'est parce que c'est l'une des rares espèces que je suis capable de reconnaître, parce qu'elle est très facilement reconnaissable. Parce que reconnaître les oiseaux, c'est quand même assez compliqué. On va écouter le chant de la mésange bleue. Ça pourra peut-être vous guider, vous aussi, qui devez certainement en avoir dans vos jardins. C'est un chant, Maxime, qui est facilement reconnaissable, ce chant.
Oui, alors là, moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne sais pas s'il est passé ou pas, mais c'est normalement un petit chant aigu.
C'est ça.
On a donc deux mésanges très proches, la mésange bleue et la mésange charbonnière dans les jardins. Et la charbonnière a une grande bande noire en travers du ventre jaune qui la distingue facilement de la mésange bleue. Mais les deux sont sinon très, très, très communes et familières. Donc celle-là...
Alors la petite mésange bleue, elle fait plusieurs portées, plusieurs périodes de reproduction dans l'année.
Elle en fait deux, rarement trois, et elles ont à chaque fois 5 à 7 jeunes qu'elles vont nourrir jusqu'à leur envol. Alors forcément, du coup, on a parfois des nichés dont tous les jeunes ne survivent pas. On a même cette année une bactérie qui semble causer qu'elle a des problèmes aux mésanges bleues. Mais globalement, pour que la population de mésanges reste stable, s'il y en a deux qui survivent pendant un an et se reproduisent l'année suivante, ça suffit. Donc on a beaucoup de jeunes mésanges qui vont se faire manger par des prédateurs. C'est aussi la nature.
Bien sûr. Autre oiseau très facilement reconnaissable, jusque-là ça reste dans mes cordes, car je ne suis pas une spécialiste des oiseaux, c'est le rouge-gorge. Le rouge-gorge, que se passe-t-il dans sa petite vie en ce moment, là, au début du mois de mai?
En ce moment, il est en train de nourrir ses jeunes, en général dans un nid qui est caché au sol, sous une souche d'arbre, ou parfois même au fond de la pentille de jardinage. Il peut même faire son nid dans une paire de bottes. On a déjà vu ça. Donc c'est un oiseau qui est très familier et qui est aussi très solitaire, sauf en cette saison. C'est la seule période de l'année à laquelle il tolère un partenaire. Sinon, il a tendance à se battre avec le premier rouge-gorge qui s'approche d'un peu trop près. D'ailleurs, sa gorge orange-rouge sert à intimider les adversaires.
Alors, il y en a un autre qui s'appelle le rouge-queue. Lui, il a un chant très caractéristique. On va l'écouter tout de suite. Je ne sais pas si, Maxime, vous avez entendu le rouge-queue. Ce chant, il est parfaitement remarquable.
Et en fait, je pense que toutes et tous, vous pouvez l'entendre de chez vous, même au cœur des grandes villes. Oui, mais partout. En fait, il n'y a que dans le nord de la France, extrême nord, ouest de la France, qu'il est un petit peu plus rare. Et donc, il va chanter du haut d'un toit, du haut d'une antenne. Et sinon, c'est plutôt un oiseau montagnard. À la base, c'est un oiseau qui aime les falaises, les roches, et donc qui apprécie les habitations humaines pour la même raison. Et effectivement, dans son chant, il y a 3-4 notes aiguës au début, 3-4 notes aiguës à la fin, et entre les deux, un bruit de papier qu'on froisse. Vraiment caractéristique.
On va passer la parole à un auditeur qui a composé le numéro du standard de Sud Radio. C'est Frédéric Fred qui nous appelle d'Arcachon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Natacha et bonjour à votre invité. Écoutez, moi je vous parle un peu des oiseaux. Là je vous téléphone, je suis sur ma terrasse et je les vois, je suis dans le jardin. Et bon, je suis assez passionné par les oiseaux parce que j'aime ces animaux libres, si vous voulez. Et je pourrais dire déjà, pour parler un peu du confinement cette année, alors c'est peut-être subjectif, mais quand même, la nature est magnifique. Les animaux, je les trouve moins sauvages. Vous voyez, on a du ramier qui vient, parce qu'ils viennent picorer dans un grand terrain avec de l'herbe qui est bien tondue. Donc, les vers de terre remontent, je vous dis pas le festin, entre les mers, les grives et tout ça. Et c'est vrai que mon épouse en avait remarqué. Bon, cette année, on dirait qu'il y a les animaux ont l'air plus heureux. Hein, voilà, je veux dire. Parce que, je sais pas, c'est peut-être totalement subjectif. C'est peut-être parce qu'il y a moins de bruit, il n'y a pas tout ce brouhaha, si vous voulez, des voitures et tout ça. Mais pour eux, c'est...
Vous voulez dire qu'on leur fout la paix et qu'ils sont beaucoup plus tranquilles.
Puis alors, même parmi les petits mammifères, il y a moins de ces pauvres hérissons, quand même, qui ont constellé les routes. Là, il y en a quand même beaucoup moins, il y a moins de voitures. Donc, les pauvres bêtes arrivent quand même à survivre. Et je voulais noter et demander à votre invité un petit peu, là cette année, en ce moment c'est effrayant, on a des sansonnets, mais alors ça va devenir quasiment, je ne veux pas dire un fléau, j'aime pas plus le terme, mais c'est catastrophique. On a la couvée vient de finir là, ils piaillent toute la journée, ils chassent les autres, c'est parnumé. Alors je ne sais pas, les sansonnets, je ne sais pas s'ils vont partir ou pas, parce que c'est vraiment, ça devient vraiment terrible. Alors je ne sais pas s'il est au courant de ce qui se passe au niveau de...
Alors, que se passe-t-il du côté des sansonnets, Maxime Zucard?
Ben, merci pour ce témoignage. Vous avez dit quelque chose d'assez beau pour moi. Vous avez dit la nature est magnifique. Et je pense qu'elle est magnifique cette année comme les années précédentes, mais on y porte un regard un petit peu différent, c'est ce que je disais au début. Et d'ailleurs, j'invite au moment du déconfinement, lorsque chacun et chacune, on va retourner dans des espaces qui ont été tranquilles pendant 2 mois, des espaces qui étaient fermés, des parcs, ça peut être aussi des étangs pour aller pêcher, ça peut être les plages évidemment, apporter un regard un petit peu interrogateur et d'essayer de nous apercevoir du poids de notre absence sur la nature et d'y revenir tout doucement, sans abîmer ce qui s'est installé pendant 2 mois.
Oui.
Et la nature est magnifique et les vols de sansonnets, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'en voir, des vols de millions de sansonnets qui malheureusement n'arrivent de plus en plus rarement parce que c'est une espèce qui a fortement décliné au cours des dernières années.
Alors ici, mais pourtant, croyez-moi, on en a. Hein. Alors là, j'avoue que...
Il n'empêche qu'il en reste. Oui. Il n'empêche évidemment qu'il en reste. Mais il y en avait encore beaucoup plus avant et le spectacle de vols de millions d'étourneaux complètement synchronisés, c'est une espèce dont chaque individu synchronise son vol avec les 7 oiseaux qui l'entourent pour faire des figures géométriques magnifiques lorsqu'on les observe. Alors après, je comprends que vous, ça puisse vous ennuyer à l'échelle de votre jardin.
Ils chassent les autres, apparemment.
Chers amis, on reste ensemble. On va marquer une courte pause et on revient avec nos sansonnets.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et ce matin, dans notre émission à l'état sauvage, nous nous intéressons aux oiseaux de nos jardins. Merci à Maxime, notre réalisateur, de nous permettre de découvrir ces petits bruits d'oiseaux. On était en train de parler du sansonnet en compagnie de Maxime Zucca, le directeur du pôle protection de la nature de la LPO, et de Frédéric, notre auditeur d'Arcachon, Frédéric qui entend beaucoup de sansonnets. J'imagine qu'ils vont là dans les semaines, les jours à venir se ruer sur les cerisiers notamment, non ?
Tout à fait. Tout à fait. Oui. Au grand désespoir de beaucoup de propriétaires de cerises. D'ailleurs, propriétaires de cerises, est-on vraiment propriétaire d'un cerisier et de cerises ? C'est une vraie question. Et moi, j'invitais plutôt notre auditeur, parce que je comprends, hein, évidemment, des nuances sonores, peut-être agaçantes.
C'est une remarque, hein, surtout, oui, parce que c'est vrai, le cri est... Alors, parce que de sens, on a nos grives musiciennes, tout ça, alors là, c'est très mélodieux, si vous voulez, tout ça, parce qu'on est... Il y a des grives en quantité aussi.
Mais le sursonnet peut être extrêmement mélodieux, c'est un oiseau qui imite énormément d'espèces, il peut même imiter un bruit de clé, un bruit de chantier, et en fait, on peut s'émerveiller. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé de près un adulte de sursonnet, des tourneaux sursonnets avec son plumage.
Ah oui, oui, oui.
Avec des petits points ponctués de blanc partout, c'est absolument merveilleux.
Et lorsqu'on des reflets dorés même, quelquefois, un petit peu dans les...
Ah oui. Et je pense qu'en admirant un petit peu plus la beauté du sursonnet, peut-être que vous supporterez mieux certaines musiques.
Oh,
sans bruit.
Merci. Et je voulais vous
merci
dire
en tout cas, Frédéric. Oui, Frédéric, on sait que vous êtes un amoureux des oiseaux. Je crois me souvenir d'ailleurs que vous nous aviez déjà contacté dans cette émission déjà pour parler d'oiseaux. Merci à vous. On vous souhaite un excellent week-end à Arcachon. Merci également à Maxime Zucca. Avant de se quitter, Maxime, il y a un programme mis en place par la LPO pour repérer les oiseaux du jardin.
C'est ça. Chacun, vous pouvez... dénombrer les oiseaux depuis votre jardin, ça s'appelle Oiseaux des Jardins, tout simplement. Et là, on a appelé l'observation, l'événement confiné, mais aux aguets. Donc là, on est à la fin du confinement, mais pour beaucoup, ça va se poursuivre. En tout cas, en télétravail, chez soi, donc l'occasion d'observer les oiseaux et la biodiversité en général de son jardin se poursuit. Donc rendez-vous sur le portail Oiseaux des Jardins de la Ligue pour la protection des oiseaux. Je voulais ajouter peut-être que si vous voulez essayer d'apprendre les chants d'oiseaux, il y a beaucoup de sites internet qui le permettent. Il y a également un livre qu'on a co-rédigé avec Léna Mazilou qui s'appelle « Écoute les oiseaux » et un poster « Birdie Memory » qui vous permet avec une application téléphone de faire chanter et d'apprendre les chants des oiseaux aux enfants. Ça marche très bien.
Sinon, voilà, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Écoute les oiseaux. Merci infiniment, Maxime Zucca, pour toutes ces informations sur tous nos oiseaux du jardin. Allez, tout de suite, c'est votre histoire. On vous emmène dans le Tarn-et-Garonne.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Nous sommes en ligne avec Lisa. Bonjour, Lisa.
Bonjour tout le monde.
Lisa, vous êtes la fondatrice ou cofondatrice de la ferme refuge Détroit d'Inde qui vient de fêter son premier anniversaire. Alors, quel drôle de nom, la ferme refuge Détroit d'Inde. Pourquoi ce nom, Lisa?
Alors, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, je suis cofondatrice de l'association. À l'initiative du projet, on est trois nénettes, donc ma maman et une amie. Alors, trois d'Inde, parce que il y avait un petit peu d'autodérision derrière ça, mais surtout parce qu'en fait, notre refuge est spécialisé dans la protection des animaux de la ferme, qui sont très peu représentés. Et donc, comme emblème, on a choisi la d'Inde, qui est quand même l'animal le plus disgracieux de la basse-cour et des animaux de la ferme, pour montrer qu'en fait, on ne faisait pas de distinction d'espèces. C'est aussi une façon
Moi, j'aime beaucoup cette autodérision. J'avoue que quand j'ai découvert le pourquoi des trois d'Inde, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup d'humour, Lisa. Lisa, votre refuge est situé dans la propriété familiale, qui est une ferme située dans le Tarn-et-Garonne, je le disais, à côté de Montauban. Dans quelle commune, précisément?
La commune de Launay-de-Coste.
Et donc, dans cette ferme, vous accueillez depuis un an des animaux de ferme. Vous avez combien de pensionnaires en ce moment?
Alors, sur le refuge, on en a 57, plus une vingtaine qu'on a fait placer directement sans qu'ils transitent sur nos installations. Donc,
d'accord.
Ça fait quasiment 80 rescapés depuis le début du refuge, quoi.
Et pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette aventure?
Alors, déjà, à titre personnel, j'ai toujours été très sensible à la condition animale. Avec ma mère, on a toujours récupéré plein d'animaux blessés, des chiens errants, enfin tout ça. Et en fait, il se trouve que plus le temps passait, plus on était confrontés à devoir parfois refuser de prendre en charge des animaux parce qu'on n'avait pas les moyens financiers, matériels, ni le temps à consacrer à ces animaux-là. Et il faut savoir que dans notre région, il y a très peu de structures qui sont capables d'accueillir des animaux de la ferme. Du coup, on s'est dit, pour agir à plus grande échelle, on va créer ça pour pouvoir venir en aide à tous ces animaux qui, malheureusement, ne sont pas représentés, quoi.
Alors, vous avez une trentaine d'hectares pour les accueillir. Vous avez quelle espèce aujourd'hui au sein du refuge?
Alors, aujourd'hui, on a des moutons, des chèvres, des ânes, des cochons et quelques chevaux.
Et donc, vous faites des adoptions aussi?
Oui. Alors,
l'idée, c'est de les placer, j'imagine, à un moment donné, lorsque c'est possible.
C'est ça. Le but étant de pouvoir toujours avoir de la place pour recueillir de nouveaux rescapés.
Comment vous choisissez vos familles d'adoption?
Alors déjà, on va envoyer quelqu'un sur place pour voir dans quelles conditions les animaux vivront. On a aussi un entretien avec les personnes sur leur façon de voir le bien-être animal. C'est super important pour nous de savoir que l'animal sera mieux chez l'adoptant que chez nous. Donc il y a vraiment un suivi derrière.
Ce qui va être difficile parce que chez vous, il est au top.
Ben après, y a des
donc on va dire aussi bien chez l'adoptant que chez vous.
Mais je suis certaine qu'il y a des adoptants qui s'en occuperont encore mieux parce qu'il y a des animaux qui ont été élevés au biberon par exemple, et nous étant donné le nombre d'animaux que l'on a, on ne peut pas consacrer autant de temps à un seul animal qui a besoin de câlin. Voilà.
Bien sûr. Est-ce que c'est compliqué de faire adopter des chèvres, des moutons? J'imagine que ça ne doit pas forcément être évident.
C'est sûr que c'est pas comme un chien ou un chat, mais après, ce qui est plus compliqué, c'est d'être sûr de là où il va tomber. Parce que malheureusement, une chèvre ou même un âne, ça vit 45 ans, quelqu'un qui va vouloir l'adopter, il faut qu'il soit conscient que cet animal, il va le garder longtemps.
Donc, en plus, l'âne n'aime pas de seul, donc il faut mieux en avoir deux.
Exactement. Ça n'a pas les mêmes besoins qu'un chien.
Mmh. De quelle manière peut-on vous aider, Lisa? Parce que je crois que vous avez besoin d'un coup de main pour récupérer des chèvres et des moutons, notamment.
Ah oui, alors là, dans l'urgence, c'est vrai qu'on a procédé donc à un sauvetage il y a une dizaine de jours en Ariège sur un troupeau issu de la maltraitance. Et là, il se trouve qu'il reste à peu près 30 individus sur place qui sont en divagation. C'est des animaux qui sont terrorisés. Donc, on est allé avec une équipe de bénévoles, avec un drone, avec des chiens de troupeau pour essayer de les rassembler. C'est des chèvres et des moutons, hein. Malheureusement, on est incapable, nous, on n'a pas les moyens matériels de pouvoir venir en aide à ces animaux. Et on aurait besoin d'une équipe spécialisée, je ne sais pas, dans la capture d'animaux sauvages. Donc, je ne sais pas si ça existe, mais ça, c'est vraiment un besoin qu'on a, oui, aujourd'hui.
Donc, si vous nous écoutez ce matin sur Sud Radio et que vous pouvez donner un coup de main à cette ferme refuge des Trois Dindes, n'hésitez pas à contacter Lisa. On peut bien sûr vous retrouver sur vos réseaux sociaux, Lisa, Instagram, Facebook. Vous avez un site internet également?
Oui.
Il y a plein de manières de vous aider en étant bénévole, en parrainant des animaux et en faisant des dons, bien sûr, parce que l'argent est toujours le nerf de la guerre quand on veut s'occuper des animaux. Lisa, merci infiniment de nous avoir présenté votre refuge et puis bravo pour votre engagement en faveur de la protection des animaux. C'est une très, très belle initiative. Je rappelle, le nom de votre refuge, c'est la Ferme Refuge des Trois Dindes qui est située dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Montauban. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous des amoureux des animaux. Et n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram Pets and Wild qui parle à la fois des animaux de compagnie mais aussi de faune sauvage. Je vous embrasse, bon week-end à tous.